Je me souviens mardi dernier, lorsque je me suis rendu à l'aéroport, j'étais là, mais j'étais pas seul. Il y avait deux avions venant de New York, un avion venant de Tunis au même moment, et il y avait la foule dans la salle d'arrivée. Et on voyait tous les gens là qui se mettaient sur la pointe des pieds, qui attendaient que des fois une porte s'entrouvre pour voir si on voyait une face qu'on reconnaissait. Et moi, en fait, à la fin, presque tout le monde était parti. J'ai dit, peut-être ils ont raté l'avion. Et finalement, avant d'aller me renseigner à la compagnie, j'ai jeté un dernier œil. Et là, j'ai reconnu Sébastien. Et la joie envahit mon cœur de savoir qu'ils étaient de retour. Et la joie qu'on peut éprouver à ce genre de retrouvailles, c'est bien, bien peu par rapport à la réalité de ce qui nous attend avec le Seigneur. Amen. Dans notre passage aujourd'hui, nous allons voir sa face. Et je crois que ce sont des choses sur lesquelles on peut méditer. D'imaginer comment on réagira quand on verra Jésus face à face. Nous abordons aujourd'hui le dernier chapitre de l'Apocalypse. Le summum. De toute la Bible. Qui suppose en fait qu'on a lu tout ce qui précède. Si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. J'aimerais qu'on lise ensemble l'Apocalypse, chapitre 22. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus et ils n'auront pas besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il me dit, ne ferme pas d'un seau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt. Et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Au début du chapitre, nous avons une complément d'information sur la Jérusalem céleste. Nous avons commencé la description la semaine dernière. Vous vous souvenez de sa taille, un cube de 2200 km de côté. Un cube. 2200 kilometers, avec des fondements en pierres précieuses, comme des pierres précieuses. 12 portes avec des perles gigantesques. Mais ce qui caractérise la ville, c'est bien sûr la présence de Dieu. Et ici, nous voyons quelque part la Trinité. Au verset 1, il est question du trône de Dieu et de l'agneau, donc du Père et du Fils. Et du trône de Dieu et de l'agneau sort ce fleuve d'eau de la vie, qui est souvent une image de l'Esprit Saint. Nous avons parlé dans nos études de mercredi sur Jean. De cet épisode de Jésus avec la femme samaritaine. Et Jésus disait, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jean 4, 13. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. 4:13, Jean. Et à cette occasion, nous avons dit que souvent nous avons soif de choses. On peut avoir soif, il y a des soifs légitimes. Nous devons boire de l'eau physiquement. Sinon, nous ne pouvons pas vivre physiquement. Nous avons des besoins, des soifs, soif de travail, soif de repos. Mais comme le disait le prophète Jérémie, bien souvent nous allons boire à des citernes où il y a de l'eau croupissante. Stagnant water. Des choses qui ne satisfont pas. On peut se dire peut-être, ah si seulement j'avais cette nouvelle moto. Si on est enfant, on dit, si seulement c'était la fin de l'année scolaire. Quand on est adulte, on dit ah, vivement la retraite. On attend quelque chose avec beaucoup d'impatience. Puis la chose arrive. On a la moto. On est à la retraite. Puis on s'aperçoit qu'on n'est pas satisfait encore. On veut encore quelque chose de plus. On veut la nouvelle moto, le modèle au-dessus. On veut toucher le gros lot pour profiter vraiment de la retraite. C'est ce que voulait dire Jésus. Non seulement il y a cette eau physique dont nous avons toujours soif, mais si nous ne réalisons pas que nous avons été créés pour connaître Dieu, alors nous ne comprenons rien à la vie. Si nous ne reconnaissons pas que nous avons une soif de lui, alors cette soif, elle est en nous. Et elle va nous faire courir partout. Jésus dit, si vous buvez de l'eau que je vous donne, alors vous n'aurez plus jamais soif. Et non seulement ça, mais cette eau va devenir en vous une source de vie. Et si vous regardez dans votre vie, quand vous avez trouvé le Seigneur, au début, vous avez commencé à boire, lire la parole, chanter des louanges, courir à toutes les réunions de l'Église. Mais c'est pas tout. Si vous avez continué avec le Seigneur, alors immanquablement, vous voulez passer l'eau autour de vous. Vous voulez donner aux autres cette eau de la vie. Amen. Et c'est vrai que nous ne pouvons vraiment apprécier l'eau que lorsque nous pouvons la donner aussi aux autres. Si on les garde égoïstement pour soi, elles vont devenir des eaux croupissantes. Jean 7, 37. Et à la fête des tabernacles, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et donc dans cette Jérusalem céleste, cette rivière d'eau de la vie, limpide comme du cristal, c'est le flot continuel de l'Esprit Saint. Ce qui frappe après, c'est que il y a un arbre de vie. Il est au milieu de la place de la ville et apparemment le fleuve de vie il est planté au milieu de. Pardon, il est au centre de la place et en fait on a l'impression que le rivière passe au milieu de lui, d'elle. Sur les côtés. The river is going through the tree. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, se trouve l'arbre de la vie. Donc l'arbre de la vie est sur les deux bords du fleuve, donc le fleuve passe au milieu. Certains pensent que peut-être le mot arbre là est un mot collectif et qu'en fait il y a deux rangées d'arbres qui sont sur les côtés de la rivière. Mais cet arbre de vie nous rappelle le tout début de la Bible, la Genèse. Genèse 2. Verset 16, Dieu avait placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Et verset 16 du chapitre 2 de la Genèse, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et verset 22 du chapitre 3, la page suivante, après que Adam et Ève aient péché, il est dit, l'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie. Pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Cet arbre donnait donc la vie éternelle. Et lorsqu'on considère la Genèse et que l'on voit ce verset 16 et 17, où Dieu disait, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Par contre, tu peux manger de tous les autres arbres. Et on se dit, mais c'est incompréhensible. Comment est-ce qu'Adam et Ève ont pu choisir la mort? En fait, il y avait l'arbre de vie, dont il était question au verset 22 du chapitre 3, et l'arbre de la mort. Ce qui est bien, c'est que si vous énervez après Adam et Ève, le Seigneur vous redonne le choix. Il nous propose l'arbre de vie ou l'arbre de la mort. L'arbre de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est la croix. C'est l'arbre où Jésus, sur lequel Jésus est mort pour nous donner la vie. Rejeter ce que Jésus a fait pour nous, c'est choisir l'arbre de la mort. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et dans la Genèse, verset 9 du chapitre 3, lorsqu'il est dit que l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu après ce péché, après son péché? En fait, c'est pas le cri d'un policier en colère. C'est le cri d'un père éploré qui cherche son enfant.
It's the call of a grieved father who's looking for his child.
Et ensuite, la malédiction qui tombe sur la création, sur l'homme et la femme. C'est une conséquence inévitable et terrible, même pour Dieu. Mais ce qui est intéressant, une fois encore, verset 24 du chapitre 3, il est dit qu'après avoir chassé l'homme, Dieu mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et généralement, on s'accorde à penser qu'en fait, c'était par amour qu'il a fait ça. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme touchât à l'arbre de vie dans sa condition de pécheur. Parce qu'il aurait été pécheur à jamais. Et donc, il est intéressant de voir que l'on retrouve cet arbre de vie dans la Jérusalem céleste. Et là, il est dit, verset 3, il n'y aura plus de malédiction, d'anathème. On avait fait le parallèle entre le début de la Bible avec la Genèse, où c'est vraiment le début du mal. Et le verset 21-22 de l'Apocalypse, où c'est justement la fin de cette terrible période de l'humanité, la fin du mal. C'est intéressant, j'en suis sûr, pour ceux qui s'intéressent à la pharmacie, de voir cet arbre de vie de près. Les feuilles servent à la guérison des nations. Une meilleure traduction serait peut-être à la santé des nations. C'est un arbre qui donne 12 récoltes, 12 fruits chaque mois. Pardon, un fruit chaque mois. Je ne sais pas si vous aimez les fruits, mais en ce moment, c'est vraiment une période de rêver pour les amateurs de fruits. À l'étal des marchés, on trouve les melons qui sentent bon, les nectarines, les pêches, les raisins. Là, il va y avoir des fruits formidables. Un chaque mois. Ça sera quelque chose d'incroyable. Ce qui est encore plus remarquable, bien sûr, c'est donc cette rivière, cet arbre de vie. Que ça, c'est la présence de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Son nom sera sur leur front. Aujourd'hui, on porte souvent des t-shirts pour faire de la publicité pour telle ou telle maison. Souvent, j'ai un beau-frère qui travaille pour Microsoft, donc il me donne des t-shirts de Microsoft. Je lui ai dit hier que ça faisait assez longtemps que je faisais de la publicité pour Bill Gates. Je lui ai donné un t-shirt de Calvary Chapel. Mais là, nous serons fiers, nous serons de porter le nom du Seigneur sur nos fronts. Vous vous souvenez, les Israélites portaient des copies de leur loi sur leur front, dans un petit frontal. L'idée, c'était en fait que la première chose qui vienne à l'esprit, ça devait être la loi de Dieu. À quoi vous pensez en premier le matin lorsque vous vous levez? Qu'est-ce que vous sifflotez sans vous en apercevoir? C'est ça la première idée, avoir Dieu sur la tête. Nous reviendrons un peu sur ce que sera le paradis, peut-être la prochaine étude. On a souvent cette idée farfelue qu'on va s'ennuyer à jouer de la harpe assis sur le coin de nuages. C'est intéressant, toutes les fausses conceptions qui traînent dans l'inconscient collectif où Saint-Pierre à la porte. Le diable en survêtement rouge avec une longue queue et une fourche. Je crois qu'on va bosser jusqu'à l'éternité pour toujours. Ils régneront au siècle des siècles. Ça ne va pas être du repos permanent. On aura des choses à gérer. La bonne chose, c'est qu'on ne se fatiguera plus. L'anomalie du vieillissement aura disparu. Et nous serons en présence de Dieu sans arrêt. Que l'on peut déjà, on peut faire cette expérience d'ici-bas déjà. C'est ça la vie abondante. Mais nous n'aurons plus les ennemis, les soucis du monde, le diable, la chair, le monde qui viendront nous attaquer. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de lumière. Dieu sera notre lumière. Il n'y aura plus de décalage horaire. Nancy et les enfants ont souffert du jet lag, et moi par sympathie. Ça paraît tellement incroyable que le Seigneur nous affirme, verset 6, ces paroles sont certaines et vraies. Et il est dit que le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Dans le reste du chapitre, on voit que Jésus dit trois fois qu'il dit « Oui, voici, je viens bientôt ». Certains disent, oui, ça fait 2000 ans qu'on a entendu ça et rien ne se passe. On peut leur répondre que 1000 ans sont comme un jour pour le Seigneur. Donc ça fait 2 jours qu'il est parti seulement. Mais une autre façon aussi de comprendre le passage, c'est que le mot « bientôt » ça pourrait être traduit rapidement. C'est-à-dire qu'une fois que les événements vont se mettre en route, ça va se passer très vite. C'est vrai que pour Dieu, le temps n'existe pas. Mais une chose qui est intéressante, c'est que vous vous souvenez peut-être lorsque l'ange avait parlé à Daniel. Dans Daniel 12, il lui avait demandé de sceller les prophéties. Parce que ce n'était pas encore le temps. Et ici, au contraire, il est dit à Jean de ne pas cacher, de ne pas sceller cette prophétie, mais de la révéler. Verset 10, « Ne ferme pas d'un seau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Et nous avons vu que lorsque nous regardons à tous les événements qui se passent autour de nous dans le monde, tous les signes dont nous a parlé Jésus et ses apôtres, les prophètes, on s'aperçoit qu'on est très proche de la fin. Ce ne sera peut-être pas le 1er janvier 2000. Le Seigneur nous laissera nous débattre avec les problèmes d'ordinateur d'abord. Ça pourrait être ce soir, maintenant. Une chose est sûre, c'est que on n'a jamais été aussi proche de ce moment. Amen. Il est dit ce qui est intéressant, c'est de savoir que le mot « heureux » ça vient du grec, vous connaissez Monseigneur Makarios. À un moment, c'était un chef d'État à Chypre. Mais le mot Makarios, en fait, ça veut dire « avoir la joie des dieux ». The joy of the God. Aujourd'hui, on connaît les caprices des dieux. Non, les caprices, it's whims. But anyway, ça veut dire que Dieu veut notre bonheur. Est-ce que vous réalisez que Dieu vous aime et que Dieu veut votre bonheur? Pas le bonheur nécessairement passager à tout moment. Mais Dieu veut que notre vie soit bénie, heureuse. Et si nous allons boire à lui, il nous désaltère. Il nous donne une vie riche. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement riche financièrement. Ça ne veut pas dire du tout qu'on échappe magiquement à la maladie. Mais notre vie a enfin un sens. Pas juste un sens parmi d'autres, mais le sens que Dieu a voulu. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Pas seulement de connaître ce qui est dit, mais de mettre en pratique. Jean, on l'avait déjà vu une fois, tombe à genoux devant l'ange qui lui révèle ces choses.
John falls at the feet of the angel who's revealing these things.
Et bien sûr, l'ange le reprend vivement. Et lui dit, je suis comme toi, je suis un compagnon de service. S'il y a quelqu'un à adorer, c'est Dieu seulement. Amen. C'est vrai, nous avons cette tendance en tant qu'être humain à aimer voir ce que nous adorons. Et on aime souvent glorifier les instruments que Dieu peut utiliser. On va entendre un grand prédicateur, on va dire, wow. On va entendre parler d'un missionnaire qui a fait plein de convertis, entre guillemets. Et on va dire, wow. Quelqu'un disait, c'est un peu comme si on voyait une pelle dans un beau jardin. Et qu'on dise, waouh, quelle belle pelle. Au lieu de donner la gloire au jardinier. Amen. Adorons Dieu seulement. Amen. Nous arrivons donc verset 11, un passage un peu surprenant. Semble encourager ceux qui pêchent à pêcher davantage. En fait, je crois qu'il s'agit plutôt de dire que le choix est fait. Et qu'il arrive un moment où il n'est pas possible de changer. C'est un peu comme Dieu et le Pharaon. Il lui demandait de libérer son peuple. Et le Pharaon ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il est arrivé un moment où Dieu l'a endurci. Comme une espèce de jugement final sur son comportement. Et on est passé du moment où Pharaon ne voulait pas libérer le peuple. Un moment où il ne pouvait plus, même s'il l'avait voulu à ce moment-là. Si vous n'avez pas encore pris une décision pour Jésus, maintenant est encore le temps. Il arrivera un moment où la porte de l'arche se refermera. Et ce sera trop tard. Maintenant est le jour du salut. Amen. Jésus dit qu'il vient bientôt, encore une fois, verset 12. Il est l'alpha et l'oméga. On dirait l'A et la lettre A et la lettre Z en français. Commencement et la fin. Tout est en lui, tout va vers lui. Heureux ceux qui ont lavé leur robe, qui lavent leur robe. Verset 14. C'est-à-dire ceux qui acceptent le Seigneur et qui se revêtent de sa justice. Verset 15, encore une fois, souligne ceux qui ne seront pas dans la Jérusalem céleste, au paradis avec Dieu. dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Lorsqu'il est dit dehors les chiens, ça ne parle pas des animaux. Ça parle, comme dans Philippiens 3:2, des incroyants ou de faux prophètes. Et je précise parce qu'en fait, j'avais une amie au travail aux États-Unis. Qui, à la suite d'une prédication sur ce verset, était convaincue qu'elle ne pourrait jamais revoir son chien qu'elle aimait tant. Et donc, elle ne pouvait pas venir à Dieu, elle n'avait pas envie d'aller au paradis. Et je lui avais expliqué, en fait, c'est vrai que la Bible ne précise pas où seront les chiens. Toute la création sera rachetée. Et ce sont aussi des créatures de Dieu. Et toujours est-il que, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, votre bonheur sera complet. Jésus nous dit qu'il a envoyé son ange pour qu'on atteste ces choses dans les églises. Très important parce que trop souvent dans les églises chrétiennes on dit « Oh, l'Apocalypse c'est trop compliqué, il y a trop de symboles, on n'y comprend rien ». C'est vrai qu'on n'a pas tout compris. Mais on a eu tellement d'informations sur le futur, sur ce qu'on peut imaginer et attendre. Et Jésus se déclare encore une fois être le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'étoile du matin, c'est Vénus qui brille le plus au moment le plus sombre de la nuit, juste à l'aurore. Et c'est vrai que nous vivons dans beaucoup de ténèbres. Et Jésus brille. Verset 17, c'est l'Esprit, donc le Saint-Esprit, et l'Épouse, l'Église, disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Réminiscent bien sûr d'Ésaïe 55 où Dieu lui-même dit « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent, c'est-à-dire pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi payez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. » Quelle invitation. de Dieu lui-même, ici de l'esprit de l'épouse. Verset 20, Jésus répète, oui, je viens bientôt. Au passage, on remarque au verset 18 un avertissement solennel. De ne pas modifier, de ne pas ajouter ou retrancher quelque chose à ce livre. Sinon, nous subirons les plaies qui sont décrites. Et notre nom sera retranché. Nous n'aurons pas la part dans l'arbre de vie. C'est un avertissement que l'on retrouve dans Deutéronome aussi. Dans le livre des Proverbes. Alors c'est vrai que ça peut s'appliquer seulement à l'Apocalypse, quand il est question de ce livre. Mais pourquoi prendre un risque? Et on sait que tout le reste du message de la Bible aussi nous dit de ne pas ajouter ou retrancher. Et la réponse de Jean est notre réponse à tous. Amen, viens Seigneur Jésus. Je faisais part la semaine dernière que des fois j'attendais le retour de Nancy avec une telle impatience. Que le Seigneur m'avait repris en me disant, est-ce que tu m'attends avec la même impatience? Et en fait, si je n'ai pas la même impatience pour le retour du Seigneur, je crois que c'est simplement de l'ignorance. Parce que ma relation n'est pas encore assez forte. Parce que je n'ai pas encore boire à lui seulement. Et lorsque l'on réalise notre vie sur terre, on peut crier Amen, viens Seigneur Jésus. Dans l'intervalle, comment devons-nous vivre? Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Cet amour réel et profond qui donne un sens à votre vie, qui nous donne la lumière, qui nous guide. Cet amour immérité trouvé par Jésus à la croix. Prions. Seigneur, nous te demandons pardon si nous survolons presque ce passage. Aide chacun de nous à y revenir à loisir. Aide-nous, Seigneur, à méditer ces choses. Te prions contre les distractions du monde. Contre les pièges de l'ennemi, de notre chair. Aide-nous, Seigneur, à passer davantage, toujours davantage de temps avec toi. et que parce que nous aurons cette intimité profonde et durable, Seigneur, nous serons nous aussi sur la pointe des pieds pour voir ton visage, Seigneur. Et peut-être parmi vous, il y en a encore qui n'ont pas reçu le Seigneur dans leur cœur. Si vous voulez le retrouver, il faut d'abord le rencontrer. Nous vivons dans un temps où il a promis que si nous lui ouvrons notre cœur, il va venir nous vivre en nous. Si vous réalisez que la vie est courte, que vous ne savez pas ce qui va se passer après, que l'Esprit Saint vous parle au profond du cœur, je vous invite à prier cette prière dans le silence de votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je te remercie d'être mort sur la croix pour mes péchés, pour obtenir mon pardon devant Dieu. Seigneur, je veux me repentir, je veux changer de direction. Je t'ai ignoré. Je veux te connaître et te découvrir. Et je veux te servir. Aide-moi par ton Esprit Saint à faire ces choses. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Merci d'y venir. Amen. Et le Seigneur promet que si vous avez fait cette prière, il va répondre à sa promesse. Est-ce qu'il y en a qui ont fait cette prière? Encore une fois, vous pouvez le faire seul, mais n'attendez pas, un jour il sera trop tard. Que le Seigneur vous bénisse tous, que vous ressentiez son amour, sa grâce, buvez et soyez des sources d'eau de vie. Amen. Amen. Merci. Donc dimanche prochain, Thierry et Rémi vous accueilleront. Encouragez-les. Merci.